Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog recouvrementfacile.com. C'est Claire et aujourd'hui j'interviewe un expert en immobilier. Je sais que vous êtes nombreux sur le blog à consulter le sujet. C'est tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo. Donc, je suis avec Julien du blog immobilier-meublé.fr.
Bonjour à tous.
Je suis ravie de t'accueillir sur la nouvelle chaîne YouTube.
Merci de m'avoir invité, Claire.
C'est un plaisir de te recevoir. Donc, Julien a un blog, il va vous expliquer tout ça. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je m'appelle Julien, j'ai 32 ans. Donc, comme l'a dit Claire, je suis l'auteur du blog immobilier-meublé.fr. Je suis aussi investisseur immobilier, voilà, c'est un blog dans lequel je partage mon expérience et je partage énormément de conseils, surtout pour bien exploiter un bien en meublé spécifiquement. Donc j'aborde plusieurs aspects comme la location saisonnière, comme la comptabilité, les démarches juridiques. Voilà, j'essaie de balayer un petit peu tout ce qui a trait à l'investissement meublé.
Parfait. Je vous invite à aller consulter son blog. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, évidemment, on est sur mon blog. Donc, moi, c'est un petit peu moins glamour parce que, justement, j'essaye d'aborder les problèmes et de vous apporter des solutions. Donc, Julien, il est spécialisé, vous l'avez compris, dans l'immobilier meublé et dans la location saisonnière. Donc, finalement, tu limites un petit peu ton risque d'impayé. Est-ce que c'était un des critères? Choisir ces modes d'exploitation-là par rapport à ça aussi?
Ouais, exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec la location courte durée. Mes deux premiers biens, je les ai exploités de cette façon. Parce que, comme tu l'as dit très justement, j'avais une grosse crainte quand j'ai commencé à investir, c'était les impayés de loyer. Et la dégradation de biens, bon, dans une moindre mesure, mais quand même. Et moi, c'est ce qui m'a freiné pendant longtemps. J'osais pas me lancer dans l'investissement.
Ouais.
Ouais, parce que on entend toujours, on entend toujours soit l'entourage, soit les journaux qui nous disent, vous avez vu, il y a encore un propriétaire qui a mis 3 ans à récupérer ses loyers ou machin. Mais bon, ce qu'on nous dit pas, c'est que ça représente 2 ou 3% des gens et que on nous parle toujours quand ça va mal, mais jamais quand ça va bien.
C'est très marginal finalement quand on prend ces chiffres-là, c'est 97% de loyers payés.
C'est ça.
C'est vrai qu'on en parle parce que quand un propriétaire est dans cette situation, on est payé, il y en a pour un petit moment.
C'est ça. Et donc moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais un peu cette crainte, donc je me suis mis dans la location saisonnière parce que ce qui est génial avec la location saisonnière, qu'on appelle aussi location courte durée, mais c'est que les loyers tombent avant que les locataires arrivent dans les lieux. Parce que simplement, vous faites une activité de location à la nuit et donc les clients, au moment où ils réservent, eh bien, payent au moment de la réservation. Donc vous percevez le loyer, vous avez l'assurance d'être payé. Et donc, quand les clients rentrent dans votre appartement ou dans votre maison, peu importe, ben vous savez que l'argent est déjà sur votre compte. Donc ça, c'est un vrai confort.
Voilà. Vous effacez en fait tout ce risque-là.
Voilà. Alors après, il y a peut-être… on élimine aussi le risque de dégradation. Alors c'est toujours pareil. Là, il y a récemment, au Nouvel An, il y a des gens qui ont loué leur Airbnb et puis qui l'ont retrouvé complètement saccagé. Bon, ce qu'on nous dit moins, c'est qu'au Nouvel An, il y a certainement des milliers de gens qui ont loué un Airbnb. Et on n'en a pas parlé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on parle jamais, les médias ne nous disent jamais, regardez, je prends le cas extrême, mais il y a eu, 10 000 logements loués ce mois-ci sur Airbnb et ça s'est très bien passé. Non, ça, on ne le dit pas. Donc, location saisonnière permet aussi de limiter le risque parce que quelqu'un qui vient en location saisonnière, il vient surtout pour dormir et la journée, il n'est pas là. Il se promène, soit c'est un touriste qui se promène, soit c'est quelqu'un qui est là pour le travail et qui donc bosse. Et donc, concrètement, il n'a pas le temps d'abîmer votre bien. Et comme il ne reste pas longtemps, vous faites un passage entre chaque locataire. Donc, le bien reste entretenu et donc il se dégrade beaucoup moins vite que dans une location classique.
Ouais. Okay. Du point de vue du site internet du style Airbnb, Hotel, tu parles sur ton blog d'ailleurs des sites sur lesquels tu mets ton bien en location.
Ouais.
Ils t'apportent aussi une sécurité ou pas? Comment ça se passe? Est-ce que les pièces d'entrée sont vérifiées? Est-ce que du coup il y a les avis de la communauté sur le locataire?
Alors ça dépend des plateformes.
Ça dépend.
Tu as Airbnb et Abritel qui eux fonctionnent comme ça. Vérification par pièce d'identité. Avis de la communauté qui sont très importants aussi dans la décision parce que c'est vrai que quand on a quelqu'un qui réserve ou qui veut réserver chez nous mais que les avis sont très bons, on ne se pose pas la question, on dit ok. C'est vrai que quand il n'y a pas d'avis ou pire quand les avis sont négatifs, on réfléchit peut-être un peu plus. De mémoire, ces sites apportent aussi une garantie financière, c'est-à-dire que si la réservation a été faite par leur biais et payée en ligne, si jamais il y a un problème comme on a pu le voir récemment, ben, il y a une garantie, une certaine limite de prise en charge des dégâts, voilà, des frais annexes en fait, qui pourraient être liés à ça. C'est vrai qu'une plateforme comme Booking, finalement, fait juste l'intermédiaire entre le client et le propriétaire. Bon, c'est un peu plus compliqué. Déjà, il n'y a pas d'appréciation, parce qu'il n'y a pas de compte client noté, finalement. C'est unilatéral. Ça, c'est un peu dommage. C'est que sur Booking, c'est vrai que les clients notent les établissements, mais les établissements ne notent pas les clients.
Vous savez moins à qui vous avez affaire.
Oui. Alors après, par expérience, Booking, c'est une clientèle très professionnelle. Donc, on a quand même beaucoup moins de problèmes que sur Airbnb ou Abritel.
Ouais. Et en tous les cas, ils payent en amont, toujours avant de venir. Parfait. Est-ce que du coup, dans ta carrière d'investisseur, tu as rencontré des litiges? Si oui, lesquels? Je pense à une vidéo de travailleurs, d'ouvriers.
Ah oui.
Ou si tu veux parler peut-être d'un autre cas, et puis surtout de la solution que tu as pu trouver.
Ouais, alors non, j'ai pas rencontré de vrais problèmes, on va pas le dire. J'ai jamais retrouvé mon appartement.
C'est lié au mode d'exploitation.
Voilà.
Parfois, c'est une bonne idée d'exploiter. Ça
fait 4 ans que je le fais maintenant, et voilà, j'ai pas eu le souci. Non, le petit problème que j'ai eu, dont je parlais dans cette fameuse vidéo, c'est pas méchant, c'est que j'ai loué mon appartement à des ouvriers peintres en bâtiment pendant 3 mois, qui sont restés 3 mois, sauf que pendant 3 mois, ils n'ont ni fait le ménage, ni lavé les draps, ni... forcément, quand j'ai récupéré l'appartement au bout de 3 mois, il était super dégueulasse. Excuse-moi, il était crade au possible. Les draps étaient noirs, j'ai dû les balancer, en racheter des nouveaux. Enfin, c'était assez dingue.
C'était glamour, quoi.
Ah ouais, non, c'était glamour. Mais là où j'avais bien géré le coup, c'est que quand la réservation a été faite, c'est une société très sérieuse qui avait réservé, j'avais déjà doublé le montant de la caution par rapport à d'habitude. Donc, j'avais pris 1000 euros de caution. Et surtout, la société m'avait dit, écoutez, s'il faut, nous, on a une société de nettoyage qui travaille pour nous sur les chantiers, en fin de chantier. Si c'est vraiment trop crade, on peut la faire passer à notre charge.
Donc, ils sont passés sur la fin du chantier appartement.
Non, ils ne sont pas passés pour le coup parce que j'avais envie.
C'était pas garder des bonnes relations aussi.
Ouais, non, puis c'était pas non plus catastrophique. Et puis, ça a fait bosser ma prestataire. Donc, elle a eu du boulot pendant 2-3 jours quand même. Mais comme j'avais pris une caution en conséquence, finalement, j'ai juste gardé toute la caution. D'accord. Ce qui a largement couvert les frais de ménage. Ouais.
D'accord. Ouais. Très bien. Donc, voilà, même en cas de problème, on sait rebondir. Et puis, Julien vous donne des solutions sur son blog. Dernière question. Moi, du coup, c'est mon métier d'être juriste. Donc, de me tenir au courant des lois, des changements... de jurisprudence, etc. Mais comment un propriétaire comme toi, par exemple, doit-il ou peut-il se tenir au courant?
Eh ben, écoute, par
où
tous les
moyens. Est-ce que tu cherches les infos, par exemple?
Par tous les moyens possibles et imaginables. Non, je lis beaucoup de blogs d'autres investisseurs, hein, parce que je sais pas, parce que je suis blogueur, je suis forcément le premier au courant. Faut suivre l'actualité.
Ouais.
J'ai mon expert comptable aussi qui peut me donner, alors plus sur l'aspect comptabilité. Qui va me donner des choses, notamment sur il y a le RSI qui est tombé l'an dernier, donc voilà, ça c'est une nouveauté. C'est un réseau, des forums, des lectures, c'est tout bête, mais le site des impôts qui quand même est le premier concerné. Alors
exactement.
C'est pas sexy. Moi, mon boulot en tant que blogueur, ce que je m'efforce de faire surtout, c'est de retranscrire ce qui est complexe et pas sexy en quelque chose de facilement compréhensible par tout le monde, quoi. Parce que c'est vrai que souvent oui, parce que tu prends la réglementation de la location saisonnière, les médias te balancent que c'est interdit, qu'on n'a plus le droit d'en faire. C'est totalement faux. C'est juste que c'est réglementé et qu'en fonction des villes où vous voulez le faire et de la façon dont vous voulez le faire, eh ben, la réglementation n'est pas la même. Et c'est, voilà, il faut juste être au courant de la réglementation pour faire ça dans les clous, tout simplement.
Et le droit devient en fait un outil à votre service et au
exactement.
Service de votre succès, de votre prospérité.
Mais tout à fait, parce que... Tu vois, donc il y a la réglementation, il y a le côté légal de la chose, mais il y a aussi l'aspect règlement de copropriété. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Mais il faut, si vous ne savez pas, c'est pas méchant, mais si vous ne savez pas ce que vous avez le droit de faire ou pas dans votre copropriété, eh ben, vous pouvez vous retrouver avec des mauvaises relations de voisinage et puis des copropriétaires qui simplement vont vous interdire de faire de la location saisonnière. Alors que si vous savez en amont les conditions dans lesquelles vous pouvez le faire ou ne pas le faire, vous avez déjà les arguments. Pour vous défendre, vous êtes beaucoup plus sûr de vous et surtout vous êtes serein parce qu'on ne va pas vous empêcher de le faire. Quoi. Donc non, c'est un point important, mais c'est vrai que la législation et la réglementation sont à maîtriser quand même.
Voilà. Donc faites comme Julien. Si vous voulez vous tenir au courant, allez faire un tour sur les groupes, activer votre réseau, rencontrer d'autres investisseurs. C'est la meilleure source d'information. Après, bien sûr, les sites officiels, mais voilà. Moi non plus, c'est pas vers les sites officiels que j'ai envie d'aller en premier. J'y vais pour le travail, bien sûr. Mais voilà, tenez-vous au courant. C'est vraiment un outil à votre service, toutes ces questions juridiques.
Et je rajouterais même que des fois, comment dire, les sites officiels ne vont pas forcément avoir la réponse à des problématiques qui ont été rencontrées par des investisseurs.
Ouais.
Parce qu'on est sur des. Je pense à la location saisonnière, parce qu'on en parlait, mais on est sur des choses qui sont relativement récentes dans le monde de l'investissement. Ça existe depuis très longtemps, mais ça explose depuis quelques années. Et des fois, les instances officielles n'ont pas forcément la réponse parce que c'est la première fois que tel cas de figure se présente à eux. Et donc, finalement, là, c'est plutôt l'expérience d'un autre blogueur ou d'un autre investisseur ou qui aura. Vécu la chose et qui pourra me dire bah ouais moi ça s'est passé comme ça et finalement voilà comment voilà le dénouement de l'histoire, voilà comment ça s'est fini et voilà donc c'est très important d'avoir une source d'information la plus large possible.
Et puis un dernier conseil, je le dis souvent, n'hésitez pas à décrocher votre téléphone ou à aller rencontrer un huissier de justice ou un avocat. Certains font des consultations juridiques plus ou moins longue, gratuite en fonction de votre cas, gratuite ou pas. À vous de voir, il y en a voilà, pour un quart d'heure, ils pourront vous renseigner, ça ne posera pas de soucis, surtout si bah, derrière, peut-être que si vous leur adressez des dossiers par la suite, ils n'auront pas perdu au change. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels pour toute question. Vous pouvez retrouver les très bons conseils aussi de Julien, bien sûr, sur ton blog.
Immobiliermeublé.fr.
Je vous remets le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En complément, vous êtes libre de télécharger mon bonus victime d'en appeler la solution simple et efficace. Je vous mets également le lien dans la description. Et n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Julien qui sont très très bien faites si vous voulez vous spécialiser sur ce créneau de l'immobilier meublé. Merci, au revoir.
À bientôt.